Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est le premier affrontement militaire en mer entre la Russie et l'Ukraine depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Trois navires de guerre ukrainiens ont été capturés hier par les forces russes alors qu'ils tentaient de pénétrer dans la mer d'Azov à l'ouest de la Crimée. Par le détroit de Kerch, décryptage derrière ce regain de tension. Nous irons à Kiev et à Moscou dans un instant.
Et puis elle a une fois de plus la lourde tâche de convaincre son Parlement. La première ministre britannique Theresa May va devoir assurer le service après-vente de l'accord trouvé hier à Bruxelles sur le Brexit.
En France, pédagogie et dialogue direct avec les Français, ce sont désormais les priorités de l'exécutif après la mobilisation des Gilets jaunes de samedi. Le gouvernement qui sort les péages urbains de la loi sur les mobilités qui doit être présentée aujourd'hui en Conseil des ministres.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, pollution, réchauffement climatique. Quel est l'impact du transport aérien ? On posera cette question au climatologue Hervé Le Treut.
Elles sont engagées dans une guerre qui ne dit pas son nom depuis l'annexion de la Crimée en 2014. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement aujourd'hui de nouvelles agressions et de provocations. Trois navires de guerre ukrainiens ont été capturés hier par les forces russes alors qu'ils tentaient de pénétrer dans la mer d'Azov à l'ouest de la Crimée par le détroit de Kerch, une zone maritime revendiquée par Moscou. Les forces russes, appuyées par des hélicoptères et des avions de combat, ont ouvert le feu pour capturer les navires ukrainiens et leur équipage. 3 à 6 blessés, selon les sources. Casus Belli pour Kiev, qui envisage d'instaurer la loi martiale. Correspondance en Ukraine de Sébastien Gobert.
Les trois navires militaires se dirigeaient vers la mer d'Azov pour renforcer la protection des côtes ukrainiennes. Quand l'un a été éperonné, les deux autres menacés, immobilisés et saisis par les gardes-frontières russes. Plus d'une vingtaine de marins, certains blessés, sont retenus prisonniers. Pour les Russes, il s'agissait de repousser une incursion dans leurs eaux territoriales. Pour Kiev, c'est un acte d'agression militaire clair. Les autorités n'ont pas les moyens militaires de répliquer, mais appellent leurs partenaires occidentaux à imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce 26 novembre. À Kiev, des manifestants s'en sont pris à l'ambassade de Russie. Tandis que le président Petro Poroshenko réunissait son conseil de guerre, il demande au Parlement de voter l'instauration d'un état d'urgence pendant 60 jours. Une mesure à laquelle il n'avait pas eu recours aux pires heures de la guerre en 2014 et qui pourrait changer la donne dans la prochaine présidentielle. Beaucoup redoutent que le scrutin soit reporté afin de favoriser le président sortant, donné perdant dans les sondages. L'escalade en mer Noire ouvre donc une nouvelle période d'incertitude en Ukraine, tant sur le front militaire que politique.
Un nouveau bras de fer entre la Russie et l'Ukraine qui peut servir différents objectifs. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Moscou. Ce regain de tension peut donc permettre à Petro Poroshenko de redorer son blason présidentiel en Ukraine. On l'entendait avant de nouvelles élections. Quels sont les enjeux pour la Russie de Vladimir Poutine ?
Alors déjà, pour bien comprendre et pour situer les forces en présence, la flotte russe de la mer Noire n'a pas grand-chose à craindre, soyons clairs, de son homologue ukrainienne, surtout comme c'était le cas hier au large de Kerch, lorsqu'elle est rapidement appuyée par l'aviation. Donc à partir de là, si Moscou a choisi délibérément de déployer les grands moyens contre deux petits navires et un remorqueur ukrainien, c'est d'abord et avant tout pour démontrer le caractère inviolable de ses frontières, qu'elles soient terrestres ou en l'occurrence hier maritimes. Ensuite, il ne faut pas oublier que partent de Sébastopol et de Novorossiysk, ces deux bases navales à proximité, les bâtiments de guerre russes qui rejoignent depuis 3 ans maintenant les côtes syriennes. Il était donc important pour les Russes de rappeler qu'ils sont maîtres dans leurs eaux territoriales, fussent-elles contestées donc par la non-reconnaissance internationale du retour de la Crimée dans le giron de la Fédération de Russie. Enfin, le Kremlin a dit dès le départ de ces tensions qu'il savait que les Occidentaux ne pouvaient ignorer les intentions de leurs alliés ukrainiens. Donc, l'usage de la force hier était aussi un message à destination de l'Ouest. En attendant le volet diplomatique aujourd'hui à l'ONU, à l'occasion duquel Moscou ne manquera pas de rappeler que la Russie, selon elle, dans cette affaire, n'a rien fait d'autre que de se défendre.
Claude Bruyot en direct de Moscou pour France Culture. La Russie qui devrait essuyer aujourd'hui de nouvelles sanctions de la part des États-Unis. La Russie qui continue d'intervenir par ailleurs en Syrie avec des frappes aériennes hier aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Moscou dit avoir visé des positions terroristes qui auraient mené une attaque chimique au chlore samedi à Alep dans le nord-ouest de la Syrie. Une centaine de cas de suffocation recensés. Ces raids aériens, les premiers en plus de 2 mois, interviennent malgré un accord parrainé par la Russie et la Turquie pour créer une zone démilitarisée qui doit séparer les territoires insurgés des régions gouvernementales dans les provinces voisines d'Alep et d'Idleb. Ankara a dénoncé hier auprès de Moscou les dernières provocations qui visent à nuire à cet accord. Tout recommence ce matin pour Theresa May. La première ministre britannique a arraché hier un accord sur le Brexit avec l'Union européenne. Elle doit désormais réunir ce matin son cabinet et surtout convaincre le Parlement de ratifier le texte. Un vote des députés est attendu le 12 décembre prochain. Theresa May s'engage donc dans une course contre la montre pour faire taire toutes les oppositions à la Chambre des communes. Antoine Gignot.
L'argument est digne d'un vendeur de foire. Ce projet d'accord est le meilleur que le Royaume-Uni puisse avoir, explique Theresa May, parce qu'il n'en existe aucun autre. La première ministre le sait, les chiffres ne jouent pas en sa faveur. Ses alliés unionistes nord-irlandais lui tournent le dos. Près de 90 députés conservateurs annoncent qu'ils veulent voter contre le texte, mais elle espère convaincre les rebelles avec un raisonnement simple. Vous demandez un Brexit plus radical, vous voulez une rupture totale avec l'Union européenne, mais si vous votez contre le projet d'accord, vous prenez le risque de plonger le pays dans une crise politique. Il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. En parallèle, dans les jours qui viennent, la première ministre va rencontrer ses adversaires, car même si les chefs de file de l'opposition appellent à faire barrage au texte négocié entre Londres et Bruxelles, le sujet est loin de faire l'unanimité. Au sein du Parti travailliste, une trentaine de députés pro-Brexit pourraient appuyer le gouvernement. Theresa May va devoir aller chercher les voix, élu après élu, et au cas par cas, il lui reste 15 jours pour le faire.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Et Theresa May défie le leader de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, de participer à un débat télévisé autour du Brexit. Débat qui pourrait donc se tenir d'ici le 12 décembre et le vote des députés sur l'accord trouvé hier sur le Brexit. Implant Files, c'est la nouvelle grande enquête conduite dans 36 pays par le consortium international de journalistes d'investigation en partenariat avec la cellule enquête de Radio France. Elle révèle que l'industrie des implants prothèses ou autres stents met sur le marché des produits qui n'ont parfois pas été contrôlés. Explication à suivre avec le reportage de la rédaction à 7h24.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Face à la fronde des gilets jaunes, l'exécutif assure vouloir garder le cap de la transition écologique, mais avec un pacte social d'accompagnement dont certaines mesures seront détaillées aujourd'hui en Conseil des ministres.
Avec la présentation par la ministre des Transports Elisabeth Borne de la loi d'orientation sur les mobilités, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de projet politique si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses, a expliqué hier Emmanuel Macron. L'exécutif qui ne change donc rien sur le fond, mais deux mots clés désormais, pédagogie et dialogue, Yannick Falt.
Première nouveauté, la création d'un haut conseil pour le climat qui sera annoncé demain par Emmanuel Macron. Une instance de 13 membres sous l'autorité du Premier ministre. Parmi eux, Pascal Canfin, le directeur français du WWF, le Fonds mondial pour la nature, Laurence Tubiana, qui était négociatrice pour la France lors de la COP21, ou l'économiste Pierre Larouturou. Triple mission de ce haut conseil pour le climat, s'assurer que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre seront tenus, mais surtout faire la pédagogie de la transition écologique et mieux évaluer l'impact social des mesures prises. Deuxième décision, le lancement d'une grande concertation délocalisée en région, territoire par territoire, en mettant autour de la table collectivités, syndicats, entreprises, associations et gilets jaunes s'ils le souhaitent. 3 mois de discussion et des propositions citoyennes pour faire évoluer les lois énergie et mobilité avant leur arrivée au Parlement. Un fonctionnement très participatif, à l'écoute des Français, explique une source gouvernementale qui ajoute « rien à voir avec une grand-messe sociale sous les lambris de Matignon ».
Le gouvernement qui a préféré exclure les péages urbains du projet de loi sur les mobilités présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On y revient dans le journal de 7h30. Toujours au Conseil des ministres aujourd'hui, un plan d'urgence contre les violences homophobes. Il sera présenté par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations. Alors que depuis le début de l'année, le nombre de plaintes pour agressions homophobes a augmenté de 15% selon le ministère de l'Intérieur. Ce plan comprendra un volet éducation pour combattre les préjugés dès l'école. La secrétaire d'État souhaite également mieux accompagner ceux qui portent plainte. 1600 référents pourraient être déployés dans les commissariats pour améliorer l'accueil des personnes agressées. Pas de date fixée pour appliquer cette mesure, ni d'indication de financement. Ils ont choisi la continuité. Les électeurs de la première circonscription de l'Essonne ont élu hier Francis Choix comme député, le bras droit historique de Manuel Valls, qui était opposé à Farida Amrani, candidate de la France Insoumise, défaite pour la seconde fois. Le Parti communiste, lui, a porté à sa tête hier le député du Nord, Fabien Roussel. Il a ouvert les bras aux Gilets jaunes et à tous ceux qui sont assommés par la vie chère. Au Mexique, désespérés, quelques 500 migrants ont tenté en vain hier de franchir la frontière vers les États-Unis à Tijuana. Ces centre-américains ont été repoussés par les forces de l'ordre américaines qui ont brièvement fermé la frontière à San Diego, en Californie. Avant même son installation au pouvoir en janvier prochain, le président d'extrême droite élu au Brésil, Jair Bolsonaro, farouche anticommuniste, avait lancé une offensive contre les médecins cubains qui, depuis 2013, travaillaient dans des déserts médicaux dans des régions pauvres et rurales du Brésil. Les déclarations de Jair Bolsonaro, jugées infamantes par Cuba, qui a donc décidé de mettre fin ce week-end à son programme humanitaire baptisé « Plus de médecins au Brésil ». Avec le départ annoncé de près de 9000 professionnels, l'association des maires du Brésil estime que 28 millions de personnes n'auront plus d'attention médicale. La correspondance d'Anne Vigna.
Pour les maires des localités où ils servaient, leur départ est une catastrophe sanitaire. Une analyse partagée par Pedro Tourinho, il est médecin et auteur d'une étude sur le travail des médecins cubains au Brésil.
Le programme Plus de médecins fonctionnait très bien. Pour la première fois, beaucoup de gens ont eu accès aux soins. C'était une très grande réussite. Environ 4000 municipalités ont reçu des médecins grâce à ce programme. Ils prenaient en charge environ 25 à 30 millions de personnes. À partir du moment où ils partent, toutes ces personnes n'auront plus de médecins à consulter. C'est très grave car cela signifie que les traitements médicaux vont être interrompus.
Le nouveau président a assuré que ces médecins cubains seront vite remplacés par des praticiens brésiliens ou d'autres nationalités. Une promesse qui semble difficile à tenir. Les médecins brésiliens ne veulent en effet pas travailler dans des zones reculées et les Cubains avaient été appelés en renfort après que les autorités brésiliennes aient tenté pendant des années d'attirer des médecins dans des déserts médicaux. Une situation que ne pouvait ignorer Jair Bolsonaro au moment de décider de renvoyer les médecins cubains.
Anne Vigna au Brésil pour France Culture. 7 ans de travail, 7 mois de voyage dans l'espace et 7 minutes d'angoisse. La sonde américaine InSight va enfin toucher aujourd'hui la surface de la planète Mars à l'issue d'une descente à haut risque de l'entrée dans l'atmosphère martienne et ses tempêtes de poussière jusqu'au contact des pieds avec la roche. Tout a été programmé plusieurs heures à l'avance. InSight doit aborder l'atmosphère de Mars à 20h47 heure de Paris, 11h47 de Californie, une descente de manière très oblique pour éviter de voler en éclats. Le temps de ce lundi 26 novembre, gris et pluvieux sur une grande partie du pays, de la neige dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif central. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 5 degrés sur la moitié nord, 3 à 7 dans le sud, jusqu'à 11 ce matin en Corse. Cet après-midi, comptez de 4 à 8 degrés dans le nord-est de l'Hexagone, 8 à 13 degrés en général ailleurs, jusqu'à 17 dans le sud-est. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Et dans quelques instants, on va tenter de comprendre quel est l'impact du transport aérien sur la pollution et le réchauffement climatique.